Vous écoutez l'épisode 106 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Depuis son lancement initial en 2006, Google Workspace est devenu l'une des suites d'outils de productivité les plus populaires et les plus utilisées dans le monde professionnel et personnel. Au fil des années, Google a continué d'innover et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer les dernières améliorations apportées à Google Workspace et comment ces changements peuvent avoir un impact sur le travail et notre vie quotidienne. De la gestion des emails à la collaboration en temps réel, nous allons tout couvrir. Restez à l'écoute pour découvrir ce que la suite de Google Workspace peut faire pour vous aider à être plus efficace et surtout plus productif. Bonjour à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné d'Alexandra Coutelet, notre geek de service et directrice de l'innovation pédagogique à l'école branchée. Bonsoir, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Tu as réussi à dire tout ça sans tout prendre ça. Une seule respiration.
Jamais. L'oxygène est rare dans mon endroit, alors je ne respire pas trop. Bonsoir, merci à toi d'être venu ce soir nous accompagner sur un sujet que tu maîtrises parfaitement. Donc, on a hâte d'échanger avec toi et je vois dans le chat qu'on est déjà très, très nombreux. Donc, je vais faire un petit coucou à Tutec, à Didier, à Mister Robot, Sylvain, à Gekka, à à Live Athenium, alors j'en passe, n'hésitez pas, Mesiana, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous arrivez dans le chat, on a beaucoup, beaucoup de choses à vous dire ce soir, et d'ailleurs, si vous aimez ce que nous faisons, ce que nous proposons tous les soirs, enfin tous les 15 jours le dimanche soir, vous pouvez nous soutenir en allant sur notre page Patreon. Alors Patreon, c'est un financement participatif. Ça nous aide à financer une partie de nos épisodes et du site mychromebook.fr. Et je tenais particulièrement à remercier Maxi59 qui était déjà Patreon, hein, qui nous soutient déjà, mais qui a augmenté son Patreon, alors qu'il nous aime encore plus qu'avant, et ça fait chaud au cœur. Donc si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas à vous rendre sur la page patreon.com/mychromebook. Enfin, si vous voulez échanger avec nous, discuter avec nous, nous proposer des solutions, des choses magnifiques qu'on peut faire sur Chrome OS, sur Google, sur les Chromebooks, n'hésitez pas à aller sur notre salon Discord. Il est gratuit, il est offert à tous et on est de plus en plus nombreux à échanger dessus. Donc allez-y, le lien est forcément dans les notes de l'épisode. Alors tu vois, ça commence déjà, Alexandra. Je t'ai encore pas parlé que on a déjà notre ami ActuTech qui vient de nous faire un super chat, donc qui vient de nous financer une partie de l'épisode. Ça paiera le voyage pour aller te rejoindre peut-être un jour. Alors, il en faudra encore beaucoup, mais voilà, merci à ActuTech. Quelques-uns, voilà, tout à fait. Un super chat et un super geste en même temps. Merci ActuTech pour ton soutien. Je crois que c'est à peu près tous les épisodes qui nous soutient en direct. Donc, merci à toi. C'est vraiment exceptionnel. Alors, je vais t'afficher. Tu aurais pu peut-être mettre un petit texte en dessous. ActuTech, n'hésite pas, je te rebalance après sur le direct. Merci en tout cas. Alexandra, je t'ai pas laissé beaucoup la parole. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter? Je t'ai présenté succinctement, mais t'es beaucoup plus que juste deux phrases sur un bout de texte.
Absolument. Moi, je travaille pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle École branchée au Québec. Donc, on fait de la formation, de l'information pour les enseignants qui veulent développer leurs compétences numériques. Et on est, entre autres, Google Partner. Donc, on donne des formations pour Google. On travaille avec l'équipe au Québec de Google Workspace for Education. Donc, ça, c'est entre autres parce que tu me connais un peu, Nicolas. Je suis un peu aussi hyperactive sur les réseaux sociaux. Je m'intéresse à une panoplie de choses. On a parlé avant d'entrer en onde d'intelligence artificielle. Donc, on se tient à jour, on regarde et tout. Donc, voilà. De là, la geek de service qui est ma page personnelle où je m'amuse à essayer une panoplie d'outils et de partager mes découvertes.
Et je vous invite vraiment à aller jeter un œil à tous tes articles parce que j'apprends pas mal de choses, je m'amuse. Là, j'ai vu, tiens, alors c'est un petit gadget que tu as testé il y a pas longtemps, un support pour téléphone portable sur oui. Pour mettre en voiture, je crois. Et je vais aller
on
l'acheter
a
aussi.
On a apporté en avion, tu sais, quand on veut écouter en avion, des fois, on n'a pas toujours le système avec les films et tout. Donc, on l'utilise en voiture. On l'accrochait après nos bagages. Donc, en attendant dans l'aéroport, on pouvait écouter nos téléséries. Donc, j'aime bien découvrir des petites astuces ici et là, puis les partager.
Ouais, bah allez voir, mettez des likes, je ne sais pas si on peut liker, mais en tout cas, retweeter ou reposter tous les articles d'Alexandra, ils sont juste superbes. On va continuer, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on a un programme qui est très très chargé. On a sélectionné, tu as sélectionné parce qu'en fait, le conducteur, on te le doit parce que tu as mis tellement d'informations que je me suis senti pas le courage de faire plus que toi. Donc
Mais
du
tu les
coup.
connais, puis il y en a quelques-unes peut-être qu'on n'a pas encore essayé, toi et moi, parce qu'ils ne sont pas disponibles.
C'est ça.
Mais quand on s'est parlé, j'ai commencé à faire je fais toujours une veille des nouveautés de mon côté. Je les présente. D'ailleurs, on a un groupe sur Facebook pour les gens en éducation au Québec. On a le Google Educator Group, le GEG Québec. Mais il y a probablement un GEG France aussi. Vérifiez, il y a plusieurs groupes en éducation. Si vous êtes en éducation. Et on fait toujours un petit topo, je dirais, à tous les 3 mois des nouveautés Google. Et j'avais déjà commencé ma veille. Et là, cette semaine, coup de théâtre, une panoplie d'annonces au BET à Londres, qui est le British Educational Training and Technology Show. J'ai dû googler parce que je suis habituée d'entendre BET
Wow.
seulement de présenter. Donc, le 28 mars, ils ont profité de ce congrès-là en technologie éducative pour pouvoir faire leurs grandes annonces avec des démonstrations. Et quand on est Google Trainer ou Google Partner. Donc, là, j'ai un peu les deux rôles dans le fond. On a accès à de l'information. Des fois, j'ai accès à l'information avant, mais j'ai signé quelque chose qui dit que je n'ai pas le droit de développer. Donc, il y a des choses qui ont enfin été dites là que j'ai maintenant le droit de venir dire, c'est disponible et voilà, et ça s'en vient.
Ouais, ça c'est cool. Donc tout ce que tu vas dire n'est plus sous embargo. Tu peux sans aucun problème nous en parler. Et d'ailleurs, parce qu'en fait, tu testes Google Workspace tous les jours. Tu l'utilises au quotidien.
Oui.
Et tu me disais en intro que, enfin à la préparation, qu'il y en avait plein de versions différentes et plus ou moins complexes, plus ou moins complètes.
Ça
Est-ce que tu
commence à
peux
devenir complexe, effectivement, de parler de nouveautés. Des fois, je vais mettre quelque chose sur les réseaux sociaux. Les gens vont me dire, mais moi, je ne l'ai pas de mon côté. Il faut savoir qu'il existe plein d'éditions, de Google. Donc, on a la version personnelle, qui est celle que probablement tout le monde utilise depuis très longtemps là, avec notre compte Gmail et notre compte personnel. Et là, on peut bien sûr payer pour avoir du stockage supplémentaire, mais la version est gratuite dans son ensemble. Ensuite, il y a une version professionnelle pour les entreprises, mais là encore, dans la version professionnelle, il y a plusieurs paliers. Et là, selon les paliers, on a accès à des choses et des fois, non. Dernièrement, j'aidais des entrepreneurs, une photographe et un graphiste qui s'étaient payés la suite Google. Et un avait le calendrier de rendez-vous, par exemple, dont on va parler tantôt, et l'autre ne l'avait pas parce qu'il ne paye pas le même montant, donc il n'y avait pas les mêmes choses. Il y a la version éducation et à l'intérieur de la version éducation, il y a aussi des paliers et une version payante et une version gratuite et les versions à licence. Et on a une version aussi organisme à but non lucratif qui est celle que j'utilise. Donc moi, je navigue dans tous ces comptes-là et des fois, ben, ce que je vais mentionner est disponible dans une version, mais ne l'est pas dans l'autre. Et là, d'essayer de tout mémoriser ça, c'est très difficile. Donc,
Oui, j'imagine. Est-ce que si je paye très très cher ma version, est-ce que je peux tout avoir, à ton avis? Est-ce qu'ils ont fait un super Google Workspace?
Ben, je crois que la version entreprise, dès qu'on paie quand même un palier, ici au Québec, c'était la version à, je pense que c'était une quinzaine de dollars par mois. Donc, je ne sais pas si il y a des plus rapides que moi dans le chat qui veulent faire la conversion en euros, mais pour ce prix-là, on avait pas mal accès à tout. En
OK.
éducation, il y a des choses qui ne sont pas disponibles. Je vais donner un exemple bien simple, là. Dans la version, on a les modèles de courriel pour faire du publipostage. Ben, on n'a pas un grand besoin de publipostage de notre côté. On ne fait pas du marketing. Donc, c'est un peu normal que ce soit pas disponible nécessairement dans certaines versions, alors que dans d'autres, ça va être essentiel. Donc, il y a ce côté-là. Puis, bien sûr, ben, il y a le côté de probablement un peu marketing aussi, de vouloir
Pousser vers le haut.
pousser vers le haut,
Mais c'est
disons-le comme
normal,
ça.
tout va bien. C'est
Donc,
normal.
Ça se peut que certaines choses qu'on mentionne aujourd'hui, vous alliez dans votre version personnelle et c'est pas là. Peut-être que c'est pas arrivé encore ou peut-être que ce sera pas disponible. Mais je pourrais partager le lien, mais il y a un blog qui explique les nouveautés, surtout lorsqu'on a une console d'administration pour l'entreprise ou éducation. Et ça l'indique. Donc, on a la fonctionnalité et dans le bas, ben on explique non disponible dans la version X, disponible dans la... Donc,
oh là là.
C'est ça. Je prends toujours le temps de voir dans quelle de mes versions je vais avoir accès à la fonctionnalité.
Bon, compliqué, mais justement, ce soir, on est là pour déjà un peu débroussailler tout ça et vous apporter les nouveautés qui viennent d'arriver ou qui vont arriver prochainement, oui. Ou peut-être pas, en fonction de votre version. On va commencer par le truc que moi, j'utilise le plus souvent, l'outil que j'utilise vraiment... Ah, j'en ai deux, en fait. J'utilise énormément, c'est Google Docs. Oui. Google Docs, vous le connaissez tous, hein, c'est ni plus ni moins que le traitement de texte de Google, donc le pendant de Word pour Microsoft. Alors, quelles sont les nouveautés que tu as voulu mettre en avant sur Google Docs, Alexandra?
Bien, premièrement, il y a toute l'interface, mais ça s'applique pas juste à Google Docs. C'est toute l'interface Material You qu'on a vu apparaître. Ça aussi, quand je l'ai annoncé, il y a plein de gens qui me disaient « mais moi, je l'ai pas encore » ou « je l'avais dans un de mes comptes, dans une de mes versions, mais pas l'autre ». Donc, on a vraiment épuré l'interface, je dirais. Donc, on a vraiment une version simplifiée qui ressemble beaucoup plus aux versions sur nos appareils mobiles aussi. Quelques petits changements. Un que j'aime bien, c'est l'historique de révision du document dans Google Docs qui est maintenant tout simplement en haut à droite de la petite horloge. J'aime dire que dès qu'on m'enlève des clics, moi, je suis heureuse dans la vie. Là, je sais, il y en a qui ont d'autres bonheurs, mais moi, ça, c'est un de mes bonheurs quand c'est facile et que ça se fait en quelques clics. Donc, on n'a plus besoin d'aller dans le fichier historique de révision, cliquer. On peut tout de suite ouvrir l'historique de révision puis aller voir ce qui se passe dans notre document. Donc, ça, c'est vraiment simplifié. Tu me mentionnais que tu aimais particulièrement la mise à jour de la barre d'outils qu'on peut enlever pour l'encombrement. C'est vraiment plus moderne comme interface. La typographie a été changée aussi. Donc, ça, c'est dans... pas mal tous les outils, mais dans Google Docs, c'est particulièrement intéressant.
C'est ça. Il y a le partage, je crois aussi, le partage de fichiers qui s'est amélioré également. Enfin, de fichiers, tout simplement. Mm-hmm. Moi, j'aime vraiment beaucoup, je te donnais mon ressenti tout à l'heure, pendant la préparation, où en fait, je mets la barre tout au-dessus, puisque tu as une petite flèche qui pointe vers le haut, tu appuies dessus, ça cache la barre d'outils, enfin la barre de menu, fichier, édition, fichier, tout ça. Et sur mon Chromebook, je passe en plus en plein écran, ce qui fait que j'ai plus rien, tout est très épuré. Et bizarrement, ça m'aide à me concentrer. À pas aller un peu partout, à pas avoir des clics dans tous les sens, et je suis beaucoup plus focus sur ce que je fais grâce à ça. Et après, tout est arrondi, hein. C'est tout beau, c'est tout rond. Les icônes sont beaucoup plus épurées. Moi, j'adore, j'utilise beaucoup la partie résumé plan que j'affiche toujours à gauche de mon interface. Pareil, la première fois
pour la navigation, c'est génial dans un long document, absolument.
Et puis, plein de petites fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure.
Des petits changements, par exemple, dans les tables des matières, ça vient d'arriver, donc vous l'avez, ça va peut-être être dans quelques jours si vous ne l'avez pas déjà, mais on a différentes mises en page pour la table des matières, ce qu'on n'avait pas avant. On pourrait faire une table des matières sans les pages, sans les numéros de pages affichés ou pas, avec des traits ou pas. On peut aussi maintenant afficher, c'est pas quelque chose que moi je me sers souvent, mais je sais que certaines personnes m'ont dit « Ah, mon Dieu, mais enfin, on peut afficher les caractères non imprimables pour savoir où sont nos sauts de page et autres. » Donc, ce n'était pas disponible avant. Pourtant, c'est quelque chose qui est de base dans des traitements de texte. Mais,
c'est ça. Je me souviens avoir fait un article autour de ça pour rajouter une extension dans Google Docs qui affichait les caractères non imprimables. Et que ça arrive maintenant, c'est du bonheur pour ceux qui... c'est vachement pratique, hein, de toute façon... dans l'impression, dans la mise en page de ton document, c'est
absolument
génial. C'est dommage que ça n'arrive que maintenant, d'ailleurs.
Oui, ben c'est ce que tout le monde me dit. Je crois que c'est des fonctionnalités comme la table des matières. Quand je les publie, j'ai toujours droit à plusieurs « enfin ». Enfin, ça arrive. C'était pas déjà là. On n'avait pas déjà accès. Ce qui est vraiment nouveau, ce sont, bon, on avait déjà les jetons, les fameux smart chips qu'on ajoute avec des A commerciales. Mais un qui s'en vient, c'est la minuterie ou le chronomètre. Donc, nous, en éducation, pour du travail d'équipe, par exemple, ou pour aider l'élève à gérer son temps, on lui dit qu'il doit écrire un texte, puis là, une quinzaine de minutes, mais il pourrait s'ajouter une petite minuterie pour voir combien de temps il lui reste pour terminer le tout. Donc, avec le A commercial, on va voir apparaître ces options-là de chronomètre et de minuterie. Si c'est pas déjà là, ça s'en vient, ça s'en vient. Et l'autre, ce sont les jetons de vote. Donc, ça aussi, s'ils sont pas déjà là, c'est quelque chose qui s'en vient. On va donc pouvoir faire un tableau, par exemple, et demander aux gens de voter un peu comme avec le pouce en l'air. Donc, pour le travail collaboratif, par exemple, on cherche le nouveau titre d'un nouveau balado. On va pouvoir mettre une panoplie de titres dans le document et faire voter les gens directement dans notre document de travail. Donc, tous des nouveaux jetons. Il y a des nouveaux jetons, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais il y a des nouveaux jetons dans feuille de calcul aussi. Donc, si vous ne les voyez pas encore, ça s'en vient. Dans les différentes versions, c'est quelque chose qui s'en vient. Tu vois le chronomètre juste en haut.
Ouais, j'ai le chronomètre. Ouais, ouais, je l'affiche pour ceux qui sont le chronomètre, c'est super sympa. Hein. Enfin, tu le mets en place, tu l'arrêtes, tu réinitialises. Ouais. Et donc je l'ai parce que je suis en version entreprise. Et mais c'est vraiment pratique. Hein. Tous ces petites chips intelligentes qui viennent d'être rajoutées, ça succède au menu déroulant d'ailleurs. Oui. Le nouveau menu déroulant qui est arrivé.
Dans l'insertion, on devrait le voir aussi apparaître. Ouais. J'en rajoute et, Nicolas, que j'avais pas mis dans ma liste, mais que nous, dans notre équipe de travail et notre nouvel outil préféré. Donc, comme vous voyez dans le document, je ne sais pas si tu peux repartager l'écran encore.
Bien sûr, je te le repartage, évidemment.
On peut transformer en petite case à cocher. Et là, vous allez me dire, mon Dieu, mais c'est vraiment des détails. Mais des fois, c'est des détails comme ça qui changent tout. J'ai transformé notre liste, comme tu le vois, en cases à cocher. D'ailleurs, une chose qui a peut-être passé inaperçue, c'est qu'on peut maintenant venir décider si on veut que notre case à cocher vienne biffer l'information ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'avant, on faisait des tableaux, on mettait la case pour que ça ne biffe pas. On trouvait des façons de contourner, mais maintenant, on a l'option.
Ouais, et ce qui est bien,
Je ne sais pas si on va le voir dans la version ici. Je ne sais pas dans la version qu'on utilise, si tu l'as ou si ça s'en vient, mais vous devriez voir apparaître juste à côté de la petite case à cocher si vous êtes en collaboration. Éventuellement, vous allez voir assigner une tâche. Et là, je ne peux pas le démontrer. Donc, il est là. Donc,
attribuer si en tant que tâche.
Attribuer une tâche. Donc, si tu cliques sur cette attribution, tu vas pouvoir m'attribuer une tâche et donner une date et tout. Et ça va automatiquement apparaître dans mes tâches de ma liste. Oh. Et lorsque je vais compléter la tâche dans notre document de travail, ben, ça va venir biffer la tâche comme quoi j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, pour du travail collaboratif en équipe, c'est vraiment génial de savoir qui fait quoi. Je t'attribue la tâche, ça s'en va dans ton outil de tâche et notre outil de tâche qui est à la droite là, dans notre barre d'outils que tu disais tantôt que tu peux ouvrir et fermer là, à droite. Juste en bas de Keep, tu as la petite barre de tâches. Donc, on a un outil de tâches qui nous permet d'ajouter. Je ne sais pas si tu l'utilises ou si tu as des tâches dans ça, mais c'est.
Oui, les tâches qui sont. Oui, pardon, j'étais parti ailleurs.
Donc, ça va s'ajouter quand tu vas l'attribuer dans ton Google document. Il va apparaître dans tes tâches.
Directement.
Et quand dans ta tâche, tu vas cocher comme quoi c'est fait, eh bien, dans le document collaboratif avec l'équipe, on va pouvoir voir que c'est fait. Donc, c'est ça, c'est un petit ajout qui aide à la productivité.
Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, mais c'est déjà des évolutions qui sont juste exceptionnelles, qui nous aident vraiment à aller plus loin encore avec Google Workspace, en tout cas, là, en l'occurrence, avec Google Docs. Y a évidemment d'autres choses. On l'a vu, cette fameuse barre à droite qui nous permet d'avoir accès à Google Tasks, à Keep, à Contact, à Agenda, à Gmail. Et justement, on a l'agenda qui, lui aussi, reçoit quelques évolutions, quelques améliorations.
Celle qui, pour moi, a eu beaucoup d'impact, c'est le calendrier de réservation qui est disponible. Quand je disais tantôt là, les versions professionnelles, c'est pas disponible dans notre version personnelle, si je me trompe pas. Mais ça nous permet d'avoir un calendrier de réservation. Donc, admettons, Nicolas, on veut prendre rendez-vous pour planifier un prochain épisode du balado. Mais je peux t'envoyer une page de réservation de mon calendrier. Tu vas pouvoir choisir ta page.
Oui.
Ça fonctionnait déjà. C'est pas ça la nouveauté. Ce que j'apprécie, c'est que je peux lui demander de vérifier plus d'un calendrier.
Oui, ça,
Donc, je
c'est
peux
clair.
lui dire d'aller voir dans mon calendrier personnel où là, j'ai un rendez-vous, par exemple, pour les enfants et j'ai bloqué la plage dans mon calendrier personnel. Il va aussi la prendre en compte dans mes réservations de mon calendrier professionnel sans que j'aie venir à rajouter dans l'autre calendrier de bloquer les dates et tout. Donc, une belle façon de ne pas avoir à se casser la tête de ce côté-là.
Ouais, moi j'utilisais Calendly avant.
Calendly, oui.
Voilà. Et du coup, quand ça s'est arrivé, je me suis dit, mais waouh, c'est génial parce que Calendly, c'est génial parce qu'il n'y avait rien d'autre de toute façon. Mais j'avais une frustration qu'il ne soit pas relié directement à tous mes calendriers, qu'il soit.
Exact.
Et avec ça, quand je l'ai vu arriver, bah, c'est pas compliqué. J'ai envoyé à tout le monde mon nouveau calendrier, enfin, mon nouveau lien finalement. Et c'est bluffant parce que je l'ai positionné sur quelques périodes particulières et ça marche parfaitement
Oui.
bien. Et je m'étais dit au début, ouais, ça va bugger, on va avoir des problème, donc je vais encore garder les deux. Bah non, rien.
Non, moi
Et
j'ai fait le saut. Comme toi, j'utilisais Calendly pour les mêmes raisons. Premièrement, parce que ça n'existait pas avec Google,
bien sûr.
donc c'était la première raison. Mais maintenant, je n'utilise que ça et l'ajout de pouvoir jumeler mon calendrier personnel aussi, de pouvoir, par exemple, on peut jumeler plus d'un calendrier, là, lui dire, j'ai un calendrier familial, un personnel et mon professionnel, et assure-toi que les plages disparaissent si j'ai mis quelque chose dans un de ces calendriers-là. Donc, ça, je trouve ça ultra pratique. Donc, maintenant, tout est synchronisé directement dans Google plutôt qu'un outil tierce.
Mais c'est génial. Ouais, effectivement, j'adore. Essayez-le si vous avez l'occasion de l'essayer. C'est assez simple, hein. Vous créez
Oui.
un événement et puis ensuite, ils vous demandent si vous voulez que ça soit des plages de réservation, je crois. Je ne sais plus si c'est le terme exact qu'ils utilisent, mais
Pense que
hyper
oui, des
simple.
créneaux de réservation,
Ou des
peut-être.
créneaux, ouais,
Ouais, des
peut-être.
fois, ils ont des termes différents aussi selon si notre navigateur est en France ou s'il est au
Ouais.
Canada en français ou en.
Ouais,
Donc, ça se peut que mes termes ne soient pas toujours les mêmes.
Mais vous
Donc.
inquiétez pas, c'est très simple, très
Oui.
lisible, très intuitif. Il n'y a pas besoin de formation plus que ça. En
Non.
quelques secondes, vous allez avoir la main dessus. Vous en créez autant que vous voulez. Vous vous trompez, vous pouvez le supprimer aussi facilement que vous l'avez créé. Même si vous l'avez créé sur. Moi, la première fois, je me suis trompé. J'ai mis tous les jours de 8 h à 20 h. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Et en quelques secondes, j'avais modifié et donné que di quelques disponibilités. J'adore.
On
Je
peut
suis fan.
paramétrer, mettre un nombre maximal de
Ouais.
rendez-vous qu'on accepte par jour. Mais on est vraiment guidé étape par étape dans le processus. Il faut simplement prendre le temps de lire et ajuster le tout. Maintenant, c'est ce qui accompagne ma signature courriel. Les gens peuvent se prendre un rendez-vous. Et j'ai plus à me soucier parce que si j'ajoute, par exemple, un rendez-vous personnel pour l'après-midi, pour quelque chose, ben, cette plage horaire-là, elle a disparu de mon calendrier professionnel puisque je lui ai demandé de prendre en compte le tout. Donc, vraiment génial.
Génial, ouais, effectivement. Alors moi, ça fait partie, effectivement, je l'ai rajouté dans ma signature électronique également, ainsi que mon Google Drive que je partage, parce que je partage souvent la même chose. Donc j'ai mis les deux au point où on en est, ça coûte pas cher, ce qui me permet d'accéder en fonction d'eux. J'ai un dossier bien particulier et que je partage. Et d'ailleurs, en parlant de Google Drive, il y a eu aussi des évolutions et des améliorations. Une nouvelle interface également, comme tu le
Oui,
disais.
oui.
Qu'est-ce qu'on peut en ressortir de cette nouvelle interface?
Ben jusqu'à présent, et c'est surtout des nouveaux filtres de recherche. Donc, souvent, là, je ne veux pas partir un débat, mais moi, je ne classe plus rien dans Google Drive. Là, je vais
Qui le
partir un
fait?
débat de tous ceux qui ont des dossiers par code de couleur et tout. Moi, je laisse tout ça pêle-mêle maintenant et j'utilise les filtres de recherche et l'engin de recherche qui est très, très, très puissant pour retrouver. Je peux lui dire document avec Nicolas pour le podcast sur les Chromebooks et il va tout trouver. Je lui mets quelques mots-clés et il va retrouver mes documents. Donc, encore plus de filtres de recherche. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a la possibilité d'effectuer des opérations groupées. Avant, on faisait beaucoup de glisser, déposer et tout. Maintenant, quand on on amène la souris ou le curseur, on a des petites cases à cocher. Je peux lui dire, prends, coche plusieurs documents en même temps. Et voilà. Ah, je suis pas seule au monde.
Non, on est au moins trois, tu vois.
Ah, voilà. Mais d'habitude, je crée un tollé de ceux qui aiment avoir des codes de couleurs et de tout classer. Puis de voilà. Donc, on a vraiment des petites choses, hein, on le voit, là, c'est pas des choses révolutionnaires, mais ces petits changements-là, des petites cases à cocher qui nous permettent de prendre action sur plus d'un document en même temps, plutôt glisser, déposer, enfoncer contrôle pour pouvoir conserver plusieurs choses. Donc, vraiment, des petites choses, mais qui nous facilitent la vie.
Ouais, c'est vraiment bien fait. Hein. Google Drive, c'est un des outils que j'utilise tout le temps. J'ai tout. Alors moi, j'ai quand même fait deux dossiers quand même, parce que je veux pas donner la même accès à tout le monde, non. Parce que je partage beaucoup mes dossiers. Mais effectivement, à l'intérieur du dossier, c'est plutôt brouillon. Et bizarrement, je me suis jamais aussi bien retrouvé depuis que je ne range plus. C'est assez étonnant, mais merci Google pour ça. Hein.
Quand on prend plus de temps à réfléchir comment on va ranger quelque chose qu'à le ranger, moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Par contre, on a des 10 équipe où là, on partage, on collabore. Ça, c'est différent. Je vais avoir un dossier parce qu'on collabore, mais pour tout ce qui est fichier personnel, donc voilà.
Didier nous dit, donc finalement, le crayon et le papier de mon enfance, c'est fini. Et oui, has been. Mais non, tu peux toujours l'utiliser, Didier. D'ailleurs...
On passe à Google Meet. Il y a énormément de nouveautés dans Google Meet. Certaines ludiques, certaines intéressantes, mais ils mettent beaucoup d'énergie depuis, je dirais, depuis la pandémie, mot qu'il ne faut pas dire. Mais ils mettent beaucoup, beaucoup d'énergie sur Google Meet. Et j'ai bien aimé, j'ai entendu une entrevue ce matin avec quelqu'un de chez Google, elle disait, le mot Meet le dit, ils veulent que ce soit un outil de rencontre, pas juste un outil de visioconférence. Donc, de pouvoir vraiment se rencontrer. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on a, par exemple, des nouveaux filtres ludiques qui ont été ajoutés. Bon, on les a testés en rencontre d'équipe. Parler à ma patronne qui est une fraise qui parle, c'est pas nécessairement la meilleure façon d'avoir une rencontre optimale, mais on a maintenant des filtres. On peut être un astronaute, un pirate et autres. Je vois beaucoup de possibilités ludiques peut-être pour des enseignants qui veulent animer un groupe ou autre, ou simplement pour avoir un peu de plaisir, on a le droit aussi. On parle de le picture-in-picture absolument qui peut nous suivre, ça change la donne beaucoup. Puis on a aussi les emojis en réaction. Qui sont intéressants, qui étaient là dans tous les autres outils, sauf celui-là. Donc, maintenant, on peut réagir. Et plus on les utilise, plus il y a de l'interactivité qui arrive. Donc, si j'utilise les feux d'artifice, ben après 5-6 personnes qui les utilisent, l'écran devient en feu d'artifice. Donc, comme je disais, des façons ludiques d'ajouter le tout. On a maintenant un indicateur des participants externes aussi. Donc, c'est clairement indiqué. Et celui qui vient d'être annoncé à Londres cette semaine, c'est la main levée qui va être détectée automatiquement avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais lever ma vraie main et la main levée à l'écran va s'activer.
Va se signaler.
Okay. J'ai vraiment hâte de voir parce que, tu sais, si c'est présentement, est-ce que là, il va détecter? Je parle beaucoup avec mes mains.
c'est ça. Je suis un peu trop italien sur la gestuelle et j'ai je pense que je vais souvent enlever la main. On va souvent me dire, Nicolas, tu voulais dire? Non, non, rien.
Non.
Arrête de lever les mains quand il dit non.
Pour avoir accompagné plusieurs enseignants qui accompagnent des tout-petits, pour qui c'est peut-être difficile d'aller trouver la main levée, de l'activer, mais qu'ils puissent simplement faire le geste et que ça détecte, ça pourrait être intéressant. Donc, à voir, mais ça s'en vient. Et on me dit que la main levée va vraiment être pour toutes les versions, même la version personnelle et tout. Donc, on aime bien.
Ah, mais c'est intéressant, tu vois, c'est peut-être anodin le fait de lever la main, mais je trouve que ça amène de la proximité finalement, comme quand on est à l'école. Le fait de ne pas devoir appuyer sur un outil, sur de l'électronique, je trouve que ça amène un petit peu de proximité entre tout le monde. J'aime bien, j'apprécie. Ouais. Hâte de tester aussi. Apparemment, on n'est pas les seuls à vouloir tester.
Oui. Hein. Il y avait déjà une fonctionnalité depuis, je pense que c'est depuis l'automne, qui permettait de baisser la main automatiquement. automatiquement qui nous avertissait, vous avez laissé votre main levée, souhaitez-vous la baisser? Donc là, on ajoute une autre façon de gérer les mains levées. Donc, je sais qu'en enseignement, c'est quelque chose qui, avec l'enseignement à distance et autres, a été très demandé. Tu as la main levée, Nicolas, as-tu une question? Non, tu n'as pas une question, non, comme voilà. Donc, ça fait beaucoup de gestion en moins. Si on peut laisser la technologie nous aider, pourquoi pas?
C'est top, effectivement, vraiment pratique. On va continuer parce que pour utiliser tous ces beaux outils, bah, tu le sais, sur le CKB Show et sur mychromebook.fr, on en utilise un en particulier qui est un Chromebook. Voilà. Il s'avère que dans cette fameuse conférence qui a lieu à Londres, Google nous en a annoncé plusieurs. Est-ce qu'il y en a qui t'ont fait de l'œil ou que tu voulais mettre en valeur?
Ben, je n'ai pas eu la chance d'essayer aucun des modèles, mais ce que je te dirais que j'ai remarqué, c'est vraiment un mouvement vers l'utilisation des Chromebooks de ce côté-là pour les enseignants. Parce que ce qu'on a majoritairement, c'est des étudiants dans les écoles qui utilisent le Chromebook. Et là, l'enseignant, lui, utilise un PC, un Mac ou autre. Et là, ils prennent vraiment un virage. Voici des modèles faits pour vous, plus puissants que peut-être le petit modèle pour les enfants. Donc, ils ont sorti 13 nouveaux modèles et ils mettent vraiment l'emphase sur comment est-ce qu'on peut l'utiliser, que ça peut être notre outil comme adulte, pas juste en classe pour visionner quelques vidéos et faire quelques petits travaux. Donc, on parle de modèles qui sont plus poussés, avec un stylet, par exemple, plus poussé aussi. Et j'aime bien leur modèle Vero 712 qui est fait de matériel recyclé. J'aimerais bien, j'ai hâte de pouvoir tester, disons.
La gamme Vero est exceptionnelle chez Acer. Nous, on l'a testé à Mychromebook. On a testé, c'était pas le 712, ça devait être le 515 ou j'ai plus en tête. C'est assez étonnant. Le toucher est bluffant. Comme j'aime le dire, je pense que ce devrait être la norme des PC haut de gamme et pas des PC dits un peu mis sur le côté. Non, c'est texture pailletée, ce plastique recyclé, souvent qui vient des océans. Ah, c'était le 514, me dit l'Assemblée, merci. J'ai testé donc le 514, magnifique produit. Il y a un test d'ailleurs sur Mychromebook.fr. Tout le monde me dit ça. Oui, c'est bon, 514. Ah, voilà, là, tiens, il y a Jean-Luc qui arrive. Et Jean-Luc, comme tous les soirs. Alors, je vais nous couper encore un petit peu parce qu'il y a toujours une priorité au direct. Un super sticker de Jean-Luc. Il fait son entrée magistralement. Bonjour Jean-Luc. Bienvenue à toi. Alors, surtout quand on vient avec un billet, hein, forcément, on est toujours bienvenu. Donc, Jean-Luc est enseignant aussi, hein, pour info, en France. Et il est très, très fan des Chromebooks. Je crois que c'est notre super modérateur sur le Discord. Tu as une question, il a toutes les réponses. C'est, tu sais, on en a parlé, je ne vais pas dire ce qu'on a dit, mais ça fait partie de des enseignants qui s'informent énormément.
Génial. Donc,
merci Jean-Luc pour ton soutien. C'est toujours avec grand plaisir qu'on accepte ton argent, hein, faut le dire. Donc, ouais, le Vero, la gamme Vero est vraiment exceptionnelle. On pourrait croire que c'est du bas de gamme, mais en fait, quand tu l'as sous les mains, c'est un toucher qui est intéressant. Il n'est pas froid vu que c'est du plastique et c'est pas comme de l'aluminium et le verre, le trackpad en verre qui lui aussi est composé de matériaux recyclés est juste bluffant. Bref, on a un super produit, j'avoue. Ils sont un peu plus épais généralement, mais j'ai adoré, mais vraiment adoré ce produit. Donc, je conseille à tout le monde qui veut acheter un produit de passer sur la gamme Vero parce que j'adore ces produits-là. Il me manquait quelques points, mais rien de grave. Tout s'améliore et il y a des modèles qui arrivent au fur et à mesure. Et Acer, pas qu'Acer d'ailleurs, mais il y a plusieurs constructeurs qui se lancent dedans. Mais Acer est parti très, très vite sur ce marché-là. Et je trouve ça bien, tant qu'à créer des nouveaux produits, autant utiliser des matériaux qui traînent dans les océans et qui polluent le monde. Donc, moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, j'adore, j'applaudis des deux mains. Je lève pas mes mains au cas où.
Mais ce que j'aime, c'est qu'ils prennent un virage pour montrer qu'un Chromebook, c'est beaucoup plus que ce qu'on a vu, du moins au Québec, dans les écoles. On a vraiment le modèle de base à peut-être entre 200 et 400 $, le petit, petit modèle. Et pour un enseignant, de regarder un Chromebook, mais pour lui, il regarde le Chromebook et il se dit « ça ne répond pas à mes besoins ». Mais un Chromebook, ça peut être beaucoup plus que ça. Il y a une gamme de modèles à essayer. Donc, de les voir en faire un peu la promotion, de montrer que ça peut être l'outil pour l'enseignant aussi, que ça peut être l'outil peut-être d'un gestionnaire d'école aussi, qu'il existe une panoplie de modèles. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. D'ailleurs, on nous a proposé là, justement de tester des modèles et tout pour pouvoir donner nos formations et être un peu ambassadeur de la chose. Donc, j'ai hâte d'essayer tous ces nouveaux modèles à venir.
Tu nous diras ce que tu en as pensé dans un prochain épisode. Mais c'est bien que, moi, je trouve ça étonnant que les professeurs n'aient pas eu accès aussi au Chromebook comme les élèves, parce que finalement, si l'élève a besoin d'un coup de main, autant que tu maîtrises l'outil qu'il utilise pour l'aider, donc c'est assez étonnant. Et puis, comme tu dis, la puissance, les ordinateurs sont de plus en plus puissants, tu fais à peu près tout, du codage, du montage vidéo, du jeu vidéo, du traitement de texte. Enfin, on n'a pas besoin de grand-chose pour faire un traitement de texte. Et aujourd'hui,
on a quelques écoles qui ont fait le saut et je la vois la différence quand l'enseignant a lui aussi un Chromebook qui est dans le même environnement que les élèves. Ça aide aussi à accompagner les enseignants parce que là, plutôt que, par exemple, de faire un tutoriel sur voici comment faire sur un PC, voici comment faire sur un autre outil, voici comment faire, mais tout le monde est dans le même environnement. Au Québec, on a un centre de service que je connais qui a choisi d'équiper ses enseignants de Chromebook et ses élèves et qui ont fait ce choix-là d'environnement au complet. Puis on voit que là, on est peut-être moins dans certains enjeux techniques de compatibilité et tout le monde est sur le même outil puis on se concentre sur la pédagogie. Mais voilà, il y en a d'autres qui choisissent aussi d'utiliser une panoplie de technologies puis c'est correct aussi d'essayer de comprendre des PC, des iPads et autres. Chaque outil a raison d'être. Donc, voilà.
C'est ça. Et du coup, avec ces Chromebooks, il y a plein de petits outils. De petits outils, c'est pas bien de dire des petits outils parce qu'ils sont exceptionnels.
Ben là, les prochains, je crois que c'est des grands outils.
Ouais,
passe à Screencast, pour moi, Screencast, c'est un grand outil.
Effectivement.
Et bonne nouvelle, ça va être disponible en français avec la version 112 qui s'en vient très bientôt. Je crois que si on est en mode développeur, on y a même déjà accès. Donc, 12 nouvelles langues qui ont été ajoutées, dont le français. Nous, de notre côté en éducation, là, je me dis, on me parle de début avril, d'après moi, dans les prochaines semaines, Screencast va être disponible. On l'avait, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Dès qu'on voulait partir un enregistrement, ça nous disait que ce n'était pas disponible dans notre langue. Et ce que j'aime particulièrement qu'ils ont ajouté, c'est la version web pour pouvoir visionner les screencasts. Parce que ceux que je connais qui l'ont utilisé ont beaucoup aimé. Ils l'ont utilisé en anglais, mais ils étaient restreints dans l'environnement Chromebook. Donc, si j'envoie un collègue qui n'a pas un Chromebook, bien, il ne pouvait pas visionner le tout. Donc là, il va avoir aussi un outil pour visionner les enregistrements en dehors.
Je te coupe, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Screencast?
Mais absolument.
L'air convaincu. Moi, je le sais, mais peut-être que dans l'assemblée, ils sont pas au courant de ce que c'est. Ils pourraient croire qu'on parle d'un Chromecast ou d'un truc comme ça, tu vois?
Ben, il y a ça aussi qui existe, mais je l'ai pas mentionné. Mais Screencast, c'est un outil d'enregistrement d'écran. Ça semble simple. On connaît peut-être déjà des Screencastify, des Loom et autres, mais là, ça va être intégré dans le Chromebook. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser une application tierce ou autre. Les vidéos s'en vont directement dans notre Google Drive et sont sauvegardées. Ça fait une retranscription automatique aussi de l'enregistrement et on peut faire l'édition de notre vidéo directement dans le texte. Donc, si on est en train de se parler, toi et moi, Nicolas, et on bafouille, on veut recommencer, mais dans l'édition de ma vidéo, je vais simplement pouvoir effacer le texte en question et l'édition va se faire toute seule sans avoir d'outils de montage vidéo. Ça va permettre aussi des outils d'annotation. On nous en a annoncé des nouveaux, mais des crayons à l'écran, pouvoir encercler des choses et tout. C'était déjà disponible en bêta, en essai seulement en anglais. Donc, certaines écoles que je connais ont fait les tests, ont aimé beaucoup. Mais comme je disais, c'était disponible seulement je l'avais fait dans un Chromebook et pour avoir accès à ces informations-là, la retranscription, tu devais rester dans un Chromebook. La création va rester dans un Chromebook parce que ça nous prend l'application Screencast pour Chromebook, mais on va pouvoir créer nos vidéos avec notre Chromebook et les diffuser où on veut par la suite.
Mais tu vois, c'est un outil que moi, YouTuber, pardon, influenceur, non, pas influenceur, en ce moment, c'est polémique en France, créateur de contenu,
voilà.
Je vais pouvoir utiliser pour faire mes tutoriels et autres. Et je trouve ça vraiment bien, le fait de pouvoir entourer avec le stylet très rapidement, le fait de pouvoir rajouter et annoter, vraiment très bien. Et puis, ça me crée mon texte, tant mieux, parce que comme ça, j'aurais pas besoin de faire deux fois la chose et d'essayer de retranscrire mon texte tant bien que mal le, moi-même. Et là, c'est vraiment très, très intéressant.
Je n'ai pas pu tester encore. J'ai hâte de voir la retranscription. Est-ce que en français, on va avoir des choses à ajuster, mais il va toujours être possible d'aller ajuster dans la retranscription aussi avant de partager. Donc, je crois que ça nous enlève quand même beaucoup de travail.
Ils ont déjà ce que je regrettais dans l'application enregistreur vocal qui est disponible sur Pixel, qui était disponible uniquement sur Pixel, mais qui est peut-être arrivé sur les autres produits, je ne sais pas, est disponible en ligne pour la lecture aussi. Mm-hmm. On avait déjà la retranscription en français et ça marchait très, très bien. Et je me disais, quand j'ai des idées d'articles ou de contenu de podcast dans la voiture, je dicte mon texte.
Ouais.
Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'audio et le texte. Et ce qui fait que quand j'arrive devant un ordinateur, j'ai plus qu'à faire un copier-coller pour le mettre dans un clip ou quoi que ce soit d'autre. Et moi, ça m'aide déjà beaucoup et ça fonctionne bien. Donc, j'ai pas de doute que dans Screencast, ça va être super bien fait. Donc,
J'imagine que parfois, par exemple, mon nom de famille est toujours une problématique avec les retranscriptions.
Ouais.
Mais c'est minimal. Donc, on va le changer manuellement par la suite. Mais 99 quelques % d'habitude, c'est quand même bien tous les outils, même avec la dictée vocale. C'est rare qu'il ne comprend pas parfaitement par certains noms où il ne va pas comprendre que c'est le nom de famille ou autre. Là, ça arrive parfois, effectivement. Donc, le screencast à surveiller et à pouvoir tester très bientôt.
Je sais que Jean-Luc et Didier dans l'Assemblée, qui sont nos super modérateurs, dès qu'ils y auront accès, je peux te dire qu'ils vont poncer poncer toutes les fonctionnalités et ils vont nous faire un super retour. C'est clair que on va avoir des belles continuités, des beaux articles qui vont tomber. On continue. Un autre truc mais qui n'est pas dédié uniquement au Chromebook,
non,
qui est le mode lecture. Et j'adore le mode lecture. Parce que j'ai un handicap, je t'en parlais tout à l'heure, et ça m'aide beaucoup dans la lecture de mes sites web. Tu as pu le tester déjà, j'imagine?
Pas encore. Il n'est pas encore disponible. On a eu droit à des démonstrations, donc on l'a vu en vidéo et autres. C'est un peu quand on est dans notre navigateur, on a déjà la possibilité d'ajouter une liste de lecture d'articles. Donc, va s'ajouter à ce menu-là une section mode lecture qui va nous permettre d'enlever toute distraction, donc retirer toutes les publicités, par exemple. Donc, on va avoir à droite notre article original, mais à gauche plutôt, à droite, on va avoir la version épurée. On va pouvoir changer la typographie, changer la couleur d'arrière-plan. Donc, une version épurée du texte pour se concentrer vraiment seulement sur le texte. Donc, ça va être dans notre mode lecture qu'on a déjà. Donc, présentement, ça existe déjà. On a la petite icône dans Chrome qui nous permet d'ajouter la liste de lecture. Donc, à surveiller, aller voir régulièrement. Éventuellement, on a liste de lecture favoris et là, on va avoir mode lecture qui va s'ajouter dans ce petit menu-là.
C'est ça. Et dans les plus téméraires d'entre nous l'ont déjà testé puisqu'il existe un flag à activer.
Voilà.
moi, je l'ai testé, évidemment. Hein. Et ça se positionne dans la barre latérale et la barre latérale va être de plus en plus importante dans Chrome. Il y a énormément de fonctionnalités qui viennent se greffer dans cette barre-là. C'est étonnant. Alors moi, j'aimais bien le mode lecture en plein écran. Du coup, je suis un peu... le temps de m'habituer, de l'avoir dans une petite fenêtre. Alors moi, je l'ai mis à gauche, tu vois, tu n'avais pas tort, on peut le mettre à droite ou à gauche,
oui,
la barre latérale, donc en fonction d'eux. Hein. Moi, je voulais voir ce que ça donnait à gauche, puis maintenant, je suis habitué. Et dans cette barre latérale, il y a plein de choses qui apparaissent, l'historique de navigation, le mode lecture, il y a les favoris.
Mais je me suis questionné si ça enlevait vraiment les distractions, puisque à gauche, tu vois encore le texte original. Moi aussi, j'aurais aimé, c'est peut-être la prochaine étape à venir, une option. Parfait, maintenant, mets-le en plein écran.
Mets-le en plein écran, ouais, effectivement.
Ouais, il manquerait.
Parce que du coup, je suis toujours perturbé par les pubs, par les vidéos,
oui,
par tout ce qui traîne.
Ouais.
Mais bon, j'essaye de me concentrer. Et tu peux agrandir la taille de la barre latérale. Donc, je n'ai pas essayé de la tirer totalement pour voir.
Ah, c'est peut-être...
Ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que quand il y aura un bouton pour la faire grandir et qu'on ait un petit effet à la Apple, tu sais, très lisse, très beau, très... Bref, j'adore.
On nous suggère justement là, des extensions Reader View. Il y en a une, il me semble que ça s'appelait Mercury Reader, mais qui a changé de nom. Il y en a plusieurs, mais si c'est intégré, on s'entend. Le Screencast, même chose. Moi, depuis des années, j'utilise Screencastify, qui est une extension. J'ai même toujours mon compte Legacy avec mon bonbon. Et là, je me dis, mais j'en aurais plus besoin si c'est intégré. Pauvre Screencastify!
Ah oui.
Donc, C'est... Donc, il y a des extensions comme ça, absolument, mais si on a ça intégré, ben, les extensions deviennent oui, Read Anything. Il y a Read and Write qui a toute une suite d'outils pour épurer le tout, mais ce sont tous des modules complémentaires, des extensions, des choses à ajouter,
ajouter
qui doivent se mettre à jour, qui doivent, tu sais, qui parfois peuvent ralentir un navigateur selon le nombre qu'on a d'extensions. Donc, si c'est déjà intégré, déjà,
ben, là,
j'ai toujours
t'as
un
une
débat.
boîte à outils complète finalement, t'as rien besoin de rajouter, hein. Tu prends un Chromebook, alors en Chromebook parce que c'est le plus simple, tu l'ouvres, t'as Screencast, t'as ton mode lecture, t'as toute la panoplie d'outils nécessaires sans jamais avoir besoin d'aller chercher autre chose, et c'est plutôt bien. D'ailleurs, une autre application que t'as mis en avant parce qu'elle évolue également, qui est une application, je sais pas comment la nommer, de prise de notes, de dessin,
de prise de notes, de dessin, ça s'appelle Cursive pour l'écriture cursive. Donc vraiment pour écrire à la main, je me souviens plus qui a mentionné le papier crayon, ben on a encore la possibilité d'avoir un crayon mais sans le papier. Donc c'est pas le crayon qu'on a éliminé, c'est simplement le papier. Donc pour par exemple pour les tout petits qui apprennent à tracer des lettres avec un appareil tactile, ça peut être intéressant si on aime la prise de notes manuscrite, on peut déjà le faire dans certains outils, dans Keep, ça m'arrive des fois de gribouiller un peu et tout. Donc, l'application Cursive, quand elle est sortie, il y avait beaucoup de bémols, beaucoup de latence dans l'écriture. Elle est sortie en grande pompe et a disparu presque automatiquement des milieux d'éducation parce que c'était pas concluant. Mais là, ça fonctionne vraiment bien avec les stylets et tout. Et c'est mis de l'avant par l'équipe qui a retravaillé le tout, surtout en éducation, là, pour pouvoir tracer des lettres, dessiner, faire des dessins et tout. Donc, à essayer sur les Chromebooks tactiles, bien sûr, et ça fonctionne encore mieux avec le stylet.
Ouais, moi je l'utilise de temps en temps. Alors j'en utilise une autre qui s'appelle Nebo, qui permet, qui est dans la version payante parce qu'elle donne accès à plein de choses. J'ai énormément de docs. Je prends beaucoup de réunions comme ça. Certains tapent au clavier. Moi j'aime bien dessiner. J'écris mal, mais je dessine aussi mal que j'écris, mais ça me permet de me rappeler de choses plus facilement. Et ce que j'aime bien dans Nebo, c'est que ça, c'est une reconnaissance d'écriture, donc OCR, qui fait que tout ce que j'écris, il le reconnaît. Il arrive à relire ce que moi, je ne sais pas lire de moi-même. Enfin, c'est bizarre, mais il est plus performant que moi. Et la chose qui me faisait utiliser vraiment Nebo, c'était le fait que quand je pose ma paume, la paume de ma main, pas la paume, la tranche de ma main sur l'écran, sur Nebo, ça bloquait ma feuille. Je ne bougeais pas dans tous les sens. Alors que dans cursive, il fallait que à main levée, mais vraiment lever la main de l'écran, il ne fallait surtout pas toucher. Et j'ai testé donc le mode rejet de la paume, je crois, il l'appelle comme ça. C'est vraiment, ça marche très très bien. Du coup, c'est encore plus simple que Nebo, ça va très très vite. Alors, il ne reconnaît pas mon écriture, mais bon, ça va, j'y arrive quand même moi. Et il manque encore 2-3 petites fonctionnalités, mais ça risque d'être parfait et ça peut peut-être me faire enlever encore un outil, comme tu le disais. Pourquoi en rajouter quand il y en a, donc, c'est qu'ils prennent presque pas de place, quoi. Et c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Et du coup, tout ça, ça va. C'est une belle boîte à outils. Je crois que je l'ai déjà dit trois ou quatre fois, mais j'en suis convaincu. Et du coup, c'est une boîte à outils dédiée, enfin, qui peut fonctionner pour l'école. Et donc, quand on parle on parle forcément de Google Classroom. Et tu voulais mettre en avant 2, 3, 4, 5, 10, non, peut-être pas autant, beaucoup, beaucoup d'évolutions aussi sur ce point-là.
Quelques petites nouveautés. Google Classroom, c'est une coquille. J'aime l'appeler l'aéroport. Donc, un aéroport, c'est rarement l'endroit où on rêve d'aller. On rêve d'aller en voyage, mais c'est un espèce d'endroit où on y va pour que ce soit efficace, qu'on puisse déposer nos bagages et s'en aller vers notre destination. Mais Google Classroom, pour les enseignants, c'est l'aéroport où on dépose les bagages et on envoie les élèves vers un Google document, vers une vidéo YouTube, vers... Donc, leur destination d'apprentissage. Et dans Google Classroom, c'est, comme je disais, un endroit pour déposer toute la suite d'outils dont on vient parler, un lien vers une rencontre Google Meet, un lien vers un document. Mais une des nouveautés, ce sont ce qu'ils appellent les practice sets. Donc, c'est ce que c'est. C'était en mode bêta seulement, en anglais seulement. Ça va rester en anglais pour le moment, mais ça va sortir du mode bêta. C'est... un outil qui permet à l'enseignant de créer des exerciceurs, par exemple des exercices de mathématiques et autres, qui vont donner une rétroaction automatique à l'élève. Donc, l'enseignant prépare ses questions, l'élève répond aux questions. Ce qu'il y a de... Là, vous allez me dire, ça, c'est pas révolutionnaire. On a plein d'outils qui peuvent faire la même chose. On pourrait faire un formulaire. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a en arrière l'intelligence artificielle de Google qui vient suggérer des vidéos aux élèves pour l'aider à réaliser les exercices. Okay. Donc, j'ai un exercice de mathématiques, l'élève doit faire quelque chose en algèbre, doit répondre, n'a pas la bonne réponse. Bien, sans que l'enseignant ait rien à faire, il y a des vidéos qui peuvent lui être proposées. L'enseignant peut décider ou pas d'activer ces fonctionnalités-là, mais Google va aller chercher une vidéo qui peut l'aider à réaliser l'exercice en question. Il y a la possibilité aussi de partager ces exercices-là entre enseignants d'une même organisation. Donc, on peut collaborer à la création d'exercices qui sont auto-corrigés, une rétroaction automatisée. Donc, pour des pratiques un peu plus répétitives, pour pratiquer des choses, les practice sets qui s'en viennent, qui seront plus en mode bêta, en anglais pour le moment, mais d'autres langues sont en développement. On s'entend que ça change la donne au niveau des exercices qu'on peut donner à un élève pour pratiquer chez lui de façon autonome, par exemple, ou en classe de façon différenciée pour vraiment répondre à chaque besoin d'élève selon ce qu'il a besoin d'apprendre.
Intéressant, très intéressant. Je me pose une question, tu as peut-être la réponse. Ces vidéos... D'où viennent-elles? Qui sont-elles? Où vont-elles? YouTube, est-ce qu'elles ont été présélectionnées par avance par Google? Ou c'est l'IA qui va chercher en fonction du contenu de la vidéo qui se dit « Ok, celle-là, elle est adaptée à mon sujet, donc 8-10 ans et compagnie. » Enfin,
ben, c'est sûr qu'il y a des paramètres qui ont été entrés. Est-ce que je connais toutes les fonctionnalités en arrière de ce qui a été demandé à l'IA? Non. Non, oui. Mais ils ont ciblé, par exemple, des objectifs d'apprentissage. Par exemple, là, si on prend aux États-Unis, ben, il doit voir en mathématiques de telle année, tel objectif d'apprentissage. Et là, il y a des vidéos qui ont été ciblées. L'enseignant peut les sélectionner aussi. Donc, on pourrait présélectionner sans laisser l'IA décider. Mais il y a certaines suggestions qui peuvent être faites à l'enseignant. Voici des vidéos. Ça pourrait être une vidéo que l'enseignant a fait lui-même aussi, qui mm-hmm. pourrait être proposée, mais qui va avoir, j'imagine, une espèce de petite étiquette qui répond. Ça, c'est de l'algèbre de telle année qui répond à tel critère d'évaluation. Voilà, la vidéo répond. Donc, les dessous, je ne les connais pas, mais ça va être en testant et en utilisant qu'on va voir peut-être les côtés positifs ou pas.
on peut imaginer une IA qui créerait carrément la vidéo avec un visuel et du texte et de l'audio. Tu m'en as parlé tout à l'heure où l'audio va être exceptionnel par la suite. Ça pourrait être un ensemble. Donc, du coup, oui, Live Athenium nous dit dans le chat les profs au chômage avec l'IA. Peut-être pas.
Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que ça va juste laisser la place. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui rêvent d'aller enseigner pour passer leur temps à corriger, à encercler des mots en rouge et d'ajouter un commentaire à l'élève sur son petit mot encerclé en rouge, ou qui rêvent de créer 18 versions d'un même exercice de mathématiques. Ah bon? Ce qu'ils aiment, c'est vraiment le temps passé avec l'élève, les réflexions, les discussions, la relation humaine. Eh bien, si on peut générer mon exercice en 30 versions différentes qui vont répondre aux besoins des élèves de se pratiquer, et en me laissant le temps de circuler dans ma classe, de parler avec les élèves, de réfléchir, je crois de mon côté qu'on est loin du chômage, on est plus enfin libéré de les tâches un peu plus administratives. Peut-être qu'une première correction va être faite pour moi, mais qu'après, c'est moi qui vais avoir le temps de m'asseoir avec l'élève pour discuter des erreurs du travail sans avoir à passer mon dimanche à corriger des copies plutôt qu'être ici avec vous. Donc, voilà.
Ouais, non, mais c'est effectivement, je le vois comme toi, plus de temps avec les élèves, un enseignement personnalisé, puisque tu vas avoir le temps de t'asseoir à côté de chacun des élèves, ce qui est impossible aujourd'hui dans des classes de 30 élèves où il faut corriger des copies, et tu vas pouvoir naviguer dans les classes, ça va être sympa. Donc, moi, j'aime bien, je suis d'accord avec toi. À voir, dit l'élève Athenium, t'inquiète.
Effectivement, on verra bien, bientôt. Mais bon, j'aime mieux être optimiste.
Oui, c'est mieux.
Et la dernière nouveauté qu'on n'a pas pu tester, mais qui est en mode bêta, bêta pour ceux qui voudraient essayer de le tester, c'est l'ajout de questions directement dans des vidéos YouTube. Donc, je suis enseignant dans mon Google Classroom, j'assigne à Nicolas une vidéo à écouter et je peux insérer des questions à choix multiples pour le moment directement dans la vidéo. Là, vous allez me dire, mais il y a plein d'outils qui faisaient déjà ça.
Et, mais là, encore une fois, déjà ça.
Mais directement intégré dans YouTube et qui va me permettre de le faire sans avoir à me créer un compte avec des outils externes, d'assigner le tout à l'externe. Donc, tout dans le même environnement. C'est en mode bêta présentement pour ceux qui veulent participer à l'essai de ça. Et bien sûr, c'est disponible seulement en anglais, mais ils travaillent conjointement, l'équipe d'éducation, avec l'équipe de YouTube. J'imagine qu'ils vont nous sortir quelque chose de fortement intéressant.
Beaucoup d'évolutions de toute façon cette année. En 2023, ça va révolutionner. L'IA en tête de proue va forcément améliorer les outils de tous les géants. De toute façon, on le voit avec Microsoft, on le voit avec Google, on le voit avec tout le monde. Donc, ça présage quelque chose de très, très intéressant. J'ai hâte des prochaines nouveautés qui seront annoncées dans pas longtemps d'ailleurs pour Google. Hein, je crois qu'on le 10 mai, il y a une conférence, oui. Une Google I.O. Qui va être hyper intéressante. On attend plein de choses. Oui. On va être déçus parce qu'on attend trop de choses, mais ça va être génial. Je crois qu'on a fait, enfin, tu nous as fait un superbe tour de tout ce qui est annoncé chez Google.
Ben, tout ce que j'ai vu passer, parce qu'on s'entend que depuis quelques mois, c'est à une vitesse. Je crois que j'ouvre mes outils à chaque jour, je me dis, mais ça, c'était pas là hier. Et qu'est-ce que c'est que ce nouveau bouton? Donc, ça se peut que j'en ai oublié, mais c'est quand même un survol de ce qui a été annoncé et ce qui est arrivé dans le dernier mois.
De toute façon, quand tu as trouvé plein d'outils, tu les mets dans un doc et tu m'appelles et tu me dis, ça y est, j'ai de quoi faire une heure. Bon, ça, tu pourrais le faire tous les jours. Donc,
une heure tous les jours, je ne suis pas certaine qu'on aura assez de nouveautés. Ils travaillent fort quand même, mais
pas tant. Alors, on va passer à une chose que tout le monde attend maintenant, puisque c'est devenu un rendez-vous dans le CKB Show, c'est nos coups de cœur. Évidemment, j'ai mis les miens en premier parce que je suis égoïste, égocentrique, tout ça. Mais à l'orage, je vais te laisser passer en premier. Non, maintenant, je suis obligé de te laisser passer. Tu es l'invité. Tu nous proposes un coup de cœur. Alors, on adore tous une partie de ton coup de cœur déjà, mais tu vas nous montrer que c'est encore meilleur.
Ben, c'est pas une nouveauté, c'est un outil, vous en avez déjà parlé, c'est un outil, je crois même que j'en avais parlé quand j'étais venue la dernière fois. J'utilise Language Tool, qui est un correcteur qui donne des synonymes, par exemple, un dictionnaire. Donc, il me suit partout. J'aime beaucoup l'extension parce qu'elle me suit sur Twitter, elle me suit quand j'écris un commentaire sous une vidéo, elle me suit partout. Je fais des fautes régulièrement, donc j'adore être corrigée directement par la machine pour ne pas ensuite avoir droit à des commentaires qui me disent que j'ai fait des fautes. Donc, je laisse la machine faire ce côté-là. Mais ce qu'il y a de nouveau depuis quelque temps, c'est une fonctionnalité qui permet de reformuler ma phrase et qui me propose différentes versions de ma phrase. Donc, par exemple, je vais partager le balado Chromebook.fr et je vais dire « suggestion de balado, super intéressant, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre au lieu de super intéressant? » Parce que ça fait 18 publications où je dis que c'est super intéressant. Ben, je vais cliquer sur un mot de la phrase et lui demander de me proposer d'autres versions de la phrase. Ça fonctionne super bien. C'est en mode bêta. Quand vous allez double-cliquer sur un mot, vous allez voir la petite fonction phrase bêta. À moins d'utiliser la version web, là, ça s'appelle reformulation. J'ai trouvé quelques petit bug ici et là. Là, on dirait qu'il n'aime pas les apostrophes, donc il faut que je choisisse un mot qui n'a pas une apostrophe pour qu'il détecte la phrase. Mais je dirais que 99% du temps, il me propose une version informelle, une version plus formelle et on accepte la suggestion, il transforme la phrase et voilà, écriture augmentée par l'intelligence artificielle et ma phrase est maintenant diversifiée et bien écrite et sans faute. Donc, voilà.
C'est excellent. Moi, je l'utilise maintenant parce que j'ai un mot que j'utilise trop souvent, c'est bluffant. Et du coup, mais c'est qu'un mot, c'est pas une phrase. Mais il arrive à me donner des phrases, des expressions quand même à la place. Je suis bien entouré, donc tous ceux qui sont dans le chat arrivent à me corriger en me disant arrête de dire bluffant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est bluffant, quoi. Enfin, tout ce qu'on voit tous les jours, c'est exceptionnel, c'est bluffant. Et Language Tool m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup au quotidien. Je l'ai mis sur tous les appareils que j'utilise.
Oui.
C'est comme tu le dis, ça t'accompagne mais partout. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu l'équivalent de Antidote.
Oui, exact.
Mais beaucoup plus lourd, Antidote, puisque c'est une application moins compatible avec les Chromebooks. Hein, je crois que ça ne l'est même pas. Il y a peut-être
non,
une extension.
Non, ça l'est. Il y a une version web.
Ça y est,
ça
ouais.
Fonctionne bien. Je dirais que moi, de mon côté, j'ai les deux. J'utilise les deux parce que Language Tool est beaucoup plus français. Je n'ai rien contre les Français, on s'entend. Mais il y a certaines expressions typiques au Québec qui ne vont pas nécessairement se retrouver dans Language Tool. Donc, parfois, j'utilise Antidote. Parce qu'ils ont vraiment, ils vont me dire que c'est une expression québécoise ou ils vont me proposer les choses. Donc, je navigue entre les deux, surtout si j'ai un texte de blog à écrire, par exemple, ben, je vais utiliser les deux pour pouvoir me donner différentes versions, pour pouvoir rejouer avec mon texte. Mais j'aime bien quand la technologie peut m'aider à rejouer avec mon texte, que ce soit avec un ou l'autre.
Ouais, ben, j'adore aussi. Didier nous demande, est-ce que tu sais si c'est une IA qui propose la reformulation ou c'est des phrases qui ont été présélectionnées?
C'est ce que Language Tool dit sur son blog. J'ai pas testé quelle était l'IA en arrière, mais c'est la publicité qu'ils en font, que c'est une IA qui analyse. J'utilisais déjà un outil en anglais qui s'appelle Quillbot, qui fait la même chose, mais qui fonctionne seulement en anglais. Donc,
oui.
Quand je rédige des textes en anglais, ben, j'utilise Quillbot qui fait un peu la même chose, reformuler les phrases. Et eux aussi disent que c'est une intelligence artificielle en arrière qui analyse le texte et propose d'autres choses. Donc, voilà.
Parfait. On m'a donné plein de synonymes à bluffant dans le chat. Époustouflant, impressionnant, étonnant. Enfin
voilà.
Bref, j'ai mon dictionnaire de synonymes à moi perso, donc c'est plutôt cool.
On n'a pas besoin, c'est l'intelligence collective au lieu de l'intelligence artificielle. Voilà.
C'est encore mieux, je pense.
Voilà.
Merci pour ton coup de cœur. Alors, je vais aller plus vite, moi. Ben, ils sont plus simples. J'en ai un particulièrement qui s'appelle Language Reactor, qui te permet d'apprendre les langues en regardant Netflix ou YouTube. C'est toi qui vois. Je ne sais pas si tu la connais, cette extension.
Non.
C'est assez assez époustouflant. assez époustouflant. C'est, tu lances l'extension, tu lances ta vidéo, donc dans la langue que tu veux apprendre. Tu mets les sous-titres ou pas, d'ailleurs, c'est peu importe. Et tu cliques dessus et donc t'écoutes le texte. Il est automatiquement traduit. Donc, il y a une IA derrière transcrit dans la langue en cours. Et ce qui est impressionnant, c'est que tous les textes, toute la transcription, je vais y arriver. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu as juste à cliquer dessus, ça met en pause la vidéo et ça te donne la définition de la vidéo.
Oh, wow.
Dans le texte. Alors, c'est pas du mot à mot. Alors, il y a du mot à mot, effectivement, mais en dessous, il te dit, attention, c'est dans l'expression, dans la phrase, c'est cette expression-là qui est utilisée. Et c'est juste étonnant, éblouissant, saisissant, formidable. Et je trouvais ça vraiment intéressant à utiliser, ce qui fait que bah, j'ai lancé plein de vidéos en plein de langues. et du coup, j'ai entendu des langues que je n'entendais pas d'habitude parce que je n'y comprends rien. Et j'ai pu apprendre quelques mots comme ça. On clique, ça met sur pause, te donne la description complète. Et tu peux même sauvegarder les mots que tu trouves intéressants. Ça te crée ton propre dictionnaire sur ta droite que tu peux consulter par la suite. Et il va te dire, bah tiens, ce mot-là, tu l'as vu plein de fois dans plein de vidéos. Tu peux cliquer dessus, ça va te dire sur quelle vidéo tu l'as vu, dans quel contexte. Moi, j'ai adoré cette extension-là. J'en ai fait un article derrière tellement j'ai apprécié cette extension. Et je crois qu'il est gratuite, qui plus est. Alors, il y a peut-être une version payante, mais moi, j'ai utilisé uniquement la version gratuite. Donc, pour ceux qui veulent entendre une langue et peut-être la maîtriser, la lire également, Language Reactor est vraiment génial.
Très intéressant.
Donc, pour les élèves, vas-y, pour une fois, ils pourront, avec la Casa de Papel, apprendre l'espagnol.
Voilà.
Ou pas. Et puis une dernière toute petite, vite fait, un coup de cœur. Je vous ai refait une extension mychromebook.fr, une extension Chrome. Alors j'avais une vieille extension en 2012, j'avais fait ça en disant, sur Chromebook, on peut faire des extensions, on peut coder. Donc c'est une extension Chrome, donc c'est pas très compliqué, c'est du HTML, du CSS, du JavaScript, ça va très vite. Mais je me suis dit, mais je vais pas la faire tout seul dans mon coin. Je vais la demander à ChatGPT. Et donc, en fait, l'extension que je vous ai faite, c'est pas moi qui l'ai faite, mea culpa. Enfin, je l'ai faite, je l'ai quand même corrigée, parce que tout n'est pas bon. Mais la première version que ChatGPT m'a fournie était totalement fonctionnelle et bluffant. Donc, il m'a créé mon extension. J'ai juste eu à l'importer dans mon navigateur Chrome. Et après, j'ai amélioré parce que je voulais certaines choses qui étaient plus simples à taper directement en code qu'à demander à ChatGPT à faire, selon moi. Et même si on n'y connaît rien, on demande ChatGPT, écris-moi une extension Chrome. Je voudrais qu'elle fasse lecteur de flux RSS et qu'elle affiche mes 5 derniers titres cliquables qui me renvoient vers le site, vers l'URL. Je veux un moteur de recherche ciblant uniquement tel site web. Je veux des icônes cliquables. Je veux telle chose.
J'ai vu des enseignants, Nicolas, faire ça avec Google Sites et demander à ChatGPT de créer des petits jeux pour travailler les probabilités en mathématiques, par exemple, et utiliser le code pour le déposer ensuite en code d'intégration sur un Google Site pouvoir permettre aux élèves de se pratiquer à deviner les probabilités d'un exercice ou saluer les élèves avec une nouvelle phrase chaque fois qu'ils ouvrent le Google Site, par exemple. Donc oui, il y a vraiment des belles possibilités de programmation avec ChatGPT pour les outils.
Voilà. Donc, vous pouvez aller la télécharger sur Chrome Web Store. Vous tapez mychromebook.fr. C'est une extension toute simple. Je suis pas allé très, très loin. Petite chose, c'est que maintenant que c'est facile, maintenant que je l'ai remise au goût du jour, téléchargez-la parce que de temps en temps, il y aura un petit cadeau qui va apparaître dans l'extension. Ce petit cadeau, c'est un petit cadeau, vous verrez, vous cliquerez dessus, puis peut-être qu'un jour, vous gagnerez un truc, vous découvrirez une nouvelle astuce ou peu importe, vous verrez. Je vous laisserai regarder de temps en temps cette extension. Et puis, si vous voulez voir les 5 derniers articles, à chaque fois, ils sont listés dessus. Voilà, c'est tout. C'était simple, mais c'est mes petites préconisations de la fin d'épisode. Merci, Alexandra. C'était cool d'avoir autant d'informations sur Google Workspace et la suite bureautique globale sur tous les outils. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Parce que je sais, de source sûre, je crois que c'est toi, que tu as plein d'endroits où on peut te retrouver, dont un que tu voudrais mettre particulièrement en avant.
Absolument. Mais on peut toujours me retrouver sur le blog de l'École branchée, donc écolebranchée.com. Si vous vous abonnez à l'infolettre, on a de l'actualité sur tout ce qui se passe en numérique, en éducation, des fois des projets, toutes sortes de projets. Puis on publie aussi des nouveautés Google, mais des projets des fois que les enseignants font en classe. On peut me retrouver sur la geekdeservice.com. Sur mon blog, on va trouver toutes les réseaux sociaux où me retrouver aussi. J'ai un nom assez facile à retrouver. Il n'y a pas beaucoup d'Alexandra Coutelet. Donc, on peut facilement me retrouver un peu partout. Et j'ai démarré un nouveau projet de balado avec mon conjoint, Danny Dumont. On a présentement juste l'intro pour vous mettre l'eau à la bouche un peu, mais qui s'appelle « Quand le numérique a un impact positif ». Donc, on part à la chasse d'entrevues de gens, d'entreprises, d'organisations qui utilisent la technologie pour améliorer le monde, j'ose le dire de cette façon-là, des fois à tout petit, des fois de sauver la planète avec le numérique, mais des fois de simplement changer le quotidien de personnes. Donc, bref, qui choisissent de faire du positif avec la technologie. Donc, technologiepositive.com est notre espèce de page d'accueil. Vous allez y retrouver le courriel pour nous envoyer si jamais vous connaissez des gens, des organisations, pour vous dire ce qu'ils font. C'est vraiment génial avec la technologie. Très positif. Envoyez-nous vos suggestions et peut-être que ce sera un prochain épisode de Balado.
Eh bien, écoute, parfait. J'ai mis le lien dans les notes de l'émission, merci. Évidemment. Vous le retrouvez. Cliquez, partagez. Vous le voyez si vous êtes sur YouTube, vous le voyez à l'écran. Et je l'ai mis même dans le chat, je crois. Oui, je l'ai mis partout. J'espère que tu auras plein d'écoutes, comme d'habitude sur tous tes podcasts, de toute façon. Écoutez tout ce que Alexandra fait parce que c'est toujours génial. On en apprend tous les jours et ça, c'est intéressant. Ça permet d'être un peu moins bête le soir et c'est toujours plaisant de se dire qu'on est plus intelligent le soir que le matin. Merci, en tout cas.
Merci.
De ta présence, c'était un grand plaisir. Merci à vous tous. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, une bonne journée peut-être. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un futur épisode du CKB Show. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires positifs dans la note, dans les notes, les commentaires de la vidéo YouTube. Je vais y arriver. Des petites étoiles sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur je ne sais pas quoi comme podcast, partout où vous voulez. Ça nous encourage et ça nous aide toujours bien. Et puis, ceux qui sont sur YouTube, mettez des pouces en l'air. Hein. C'est toujours plaisant de voir que vous appréciez notre travail et que ça nous remonte un petit peu dans les classements. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Ciao, bye bye.